Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et c'est tous les jeudis, la fête de la musique dans le réveil culturel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, le réveil culturel, tous les matins de 6h à 6h30 ou quand vous voulez, en passant par le podcast à votre disposition sur franceculture.fr. Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la technique, Benjamin Vignal. La musique adoucit-elle vraiment les mœurs ? Comme on le dit depuis Pythagore, c'est-à-dire au moins depuis la Grèce antique. Et peut-on soigner réellement des malades des nouvelles pathologies ou des nouvelles addictions avec de la musique? Nous avons posé ces questions à Edith Lecourt, qui est musicothérapeute et qui nous a proposé de passer un jour à l'émission pour tout nous expliquer. Eh ben, ça tombe bien, à la veille de la grande fête de la musique, elle sort un livre aux éditions Erol, La musicothérapie. Edith Lecourt est mon invitée ce matin.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Bonjour Edith Lecourt.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que ça vous fait d'écouter cette flûte amérindienne?
J'étais en train de noter, prendre des notes sur ce que ça fait, parce que je pensais effectivement réagir à ça. Bon, je pense que c'est classiquement le type de musique qu'on fait passer chez nous pour apaiser, pour détendre, apaiser surtout. Je me disais que ça nous mettait dans un climat assez agréable, confortable, sécurisant pour cette émission.
Voilà, pour commencer l'émission, je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de sortir aux éditions Erol, La musicothérapie, découvrir les vertus thérapeutiques de la musique. Et ce qu'on apprend très vite, c'est que la musicothérapie a beaucoup évolué ces 50 dernières années, même si elle remonte, à la nuit des temps. Ou presque.
Oui, tout à fait. Des temps et des cultures, des civilisations. Elle a beaucoup évolué, je dirais plus au niveau de sa mise en forme, de sa professionnalisation, de son organisation sur plan international, que sur les pratiques, enfin. Disons que ce qui était dit par les anciens existe toujours et est toujours pratiqué. Ça a été pratiqué dans toutes les médecines traditionnelles. Utiliser la musique, comme vous l'avez dit, pour déstresser, pour traiter les dépressions, pour stimuler les apathiques, tout ça, en fait, n'a pas beaucoup changé. Alors, c'est vrai qu'on a créé des méthodes, mais ce qui a le plus évolué, c'est vraiment l'organisation d'une profession. C'était quelque chose qui était fait naturellement dans toutes les cultures, qui est encore fait par exemple en Inde. On a une conception de la thérapie musicale. Sans forcément aller chercher des musicothérapeutes, parce qu'il y a déjà toute une tradition de connaissances, tel mode produit telle chose, etc. Il s'appuie encore là-dessus. Mais de notre côté, c'est la création. Vous savez, on fait des professions pour toute pratique. Et donc, c'est surtout en France, on a mis très longtemps à accepter que ça devienne une profession, en fait. Donc ça, c'est beaucoup plus récent, et c'est ce qui a permis, c'est aussi l'organisation internationale, c'est-à-dire que la musicothérapie s'est organisée dans tous les pays un peu de façon simultanée, enfin à partir des années 70. Les années 70-80, ça a été vraiment une organisation un peu dans tous les pays.
Mais concrètement, Edith Lecourt, vous qui êtes psychologue, clinicienne, psychanalyste, musicienne et musicothérapeute, comment ça se passe pour vous? C'est-à-dire, vous recevez des patients qu'on n'arrive pas à soigner avec des traitements médicaux et ils viennent vous voir en espérant trouver chez vous, quoi, une playlist à la place d'une ordonnance pour qu'ils aillent mieux?
Alors là, on a lutté contre ça jusqu'à maintenant.
Oui. Hein,
parce qu'on, c'est pas
un peu la caricature, ce que je vous dis.
Oui, c'est terrible.
Mais explique-nous comment ça se passe.
C'est terrible parce que on voudrait conditionner, et c'est vrai qu'on peut. Alors, on peut très facilement conditionner les gens avec la musique. Et ça se fait de façon commerciale dans les magasins et dans les musiques.
Donc pour le meilleur et pour le pire.
Pour le meilleur, pour le pire. Ça s'est toujours fait. Ça se fait dans les armées. Ça se fait, bon, dans certaines religions. Enfin, voilà. Donc, il y a tout cet aspect conditionnement. Pour le conditionnement, effectivement, c'est des musiques typées qu'on va répéter et qu'on va bien nous incruster de telle façon que nos comportements suivent. Parce que là, le pouvoir de la musique, c'est le pouvoir sur le corps. Et sur le rythme cardiaque, sur le rythme respiratoire. Donc, une fois que vous avez bien incrusté ça, c'est sûr que ça marche, entre guillemets, quoi. Alors, c'est pas du tout ça qu'on veut, nous, en musicothérapie.
Alors, qu'est-ce que vous faites? Ça ressemble à quoi, d'ailleurs, un cabinet d'une musicothérapeute comme vous, Edith Lecourt?
Moi, j'ai pas de cabinet.
Pour faire. Alors, comment ça se passe?
Oui, parce que moi, j'ai travaillé avec l'université jusqu'à maintenant. Donc, mais j'ai reçu quand même déjà des patients, mais de façon limitée, on va dire. Comment ça se passe? De toute façon, il y a d'abord pour nous à connaître la personne. Et la connaître différemment que moi, je fais aussi des psychothérapies, la psychanalyse. C'est pas la même forme de connaissance. C'est-à-dire que c'est son histoire sonore et musicale à laquelle on va s'intéresser. Et ça, c'est que ça crée une relation tout à fait différente que la relation de psychiatre ou de psychologue traditionnel. Donc, on crée cet intérêt commun pour le sonore, pour la musique. On part de là. Et à partir de là, donc, on a ce qu'on appelle un bilan psychomusical, qui est de mettre en situation la personne.
Bilan comment?
Psychomusical.
Musical, c'est-à-dire?
En fait, on recherche quelques données qui nous permettent, nous, de faire une proposition de musicothérapie. Parce que le problème, et ça, c'est ce qu'on ne veut pas savoir habituellement, c'est que c'est très compliqué, c'est très complexe. La musique, c'est très complexe. Et l'être humain est très complexe. Donc, voilà, on doit jouer avec ça. Donc, on ne peut pas savoir. Ce n'est pas parce que vous me dites que vous êtes déprimé ou que vous êtes hyperactif ou quoi que je vais savoir, avoir mon programme, mon protocole et que ça va marcher. Donc, pour nous, votre expérience musicale, c'est toute votre histoire musicale. Et donc, on peut pas passer des heures, on pourrait, mais dans un autre contexte, c'est pas, mais.
C'est une manière pour connaître le patient, si
voilà.
C'est ça, Edith Lecourt.
Une manière de connaître
donc
le
patient. Donc la musicothérapie, c'est comme tous les arts-thérapies, c'est une manière aussi d'installer un dialogue
voilà.
Et de mieux connaître.
Voilà. Alors le bilan, c'est pour pouvoir engager ce dialogue. Hein. Et donc, c'est l'écoute de quelques extraits de morceaux de musique très variés pour savoir un peu comment vous réagissez à la musique. Et puis surtout aussi l'offre d'un certain nombre d'instruments de musique à disposition. Comment vous allez approcher ces instruments? Et qu'est-ce que vous allez en faire? Donc, ces éléments-là, en plus de l'entretien qu'on va avoir sur l'histoire sonore musicale, ces éléments-là vont nous donner vraiment une possibilité de démarrer une séance après un programme, pas seulement une séance, parce qu'il va falloir développer les séances, donc faire une séance d'essai, ok, mais en fait, il va falloir faire une proposition à moyen ou long terme. Donc, il faut avoir une idée de vers où on va avec la musique.
Donc faire parler les patients avec le choix des instruments, le matériel instrumental utile en musicothérapie est très bien développé dans votre livre Edith Lecourt. Mais quand on souffre d'une maladie, quand on a mal, que peut la musique ?
Alors, ça dépend du type de mal. Si c'est physique, on utilise la musique pour l'analgésie. C'est-à-dire qu'elle remplace pas l'anesthésie, elle remplace pas les médicaments, mais elle peut limiter beaucoup l'utilisation de ces médicaments et aider fortement et moralement et physiquement. Donc ça, ce sont des protocoles plus particuliers, je dirais, parce que c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus simple. On agit sur quelques paramètres, avec quelques paramètres musicaux, comme le rythme, comme...
Mais c'est un programme qui a été fait scientifiquement, comme avec des tests, comme on le fait avec des molécules, avec des médicaments, avec des antibiotiques.
Il y a actuellement, effectivement, ce type de pratique avec une méthode précise, un protocole. Pour être, voilà, un protocole avec quand même quelque chose de musique, c'est-à-dire que c'est pas toujours les mêmes musiques qu'on va passer. Il y a plusieurs possibilités de bandes musicales, on veut dire. Hein. Mais c'est quand même, là, ça rentre dans un protocole. C'est pas mal utilisé à Montpellier actuellement. Il y a cette possibilité-là. Mais après, bon, ça, c'est quand même limité à une action sur la douleur, ce qui est très important. Voilà. Après, nous, les pratiques sont surtout d'ordre psychologique, psychiatrique. Donc là, c'est beaucoup plus ambitieux et c'est beaucoup plus compliqué.
Est-ce qu'on obtient des résultats, Edith Lecourt, probants ?
Bah, écoutez, bon, j'aurais pas passé 40 années de ma vie à l'enseigner s'il n'y avait aucun résultat. Alors, probant, c'est ça. Qu'est-ce qui fait preuve pour vous ? Qu'est-ce qui fait preuve pour le public ? Qu'est-ce qui fait preuve pour la personne qui souffre ? Ce qui fait preuve, c'est que, à sortir de la séance, elle se sent mieux et qu'elle revienne la fois suivante, qu'elle se sente encore mieux et ça se passe comme ça. Mais ça, sur le plan scientifique, c'est insuffisant, ça marche pas. Et comme il y a énormément de paramètres musicaux et psychologiques et physiques en même temps, donc c'est très difficile, on peut pas mettre tous les patients dans des boîtes pour pour avoir tous ces paramètres. Donc c'est très difficile d'avoir ces fameuses preuves exceptionnelles qu'on attend.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Qui brûlait ma vie aux quatre coins des nuits, qui marchait sans but au long de l'ennui. Moi qui ne croyais rien qu'à ces petits matins, à l'aube on peut croire aux rêves de gloire. Moi qui ne croyais rien, aujourd'hui crois en mon destin. Pour trouver la vérité, il me suffisait de chanter pour moi la musique. Oui, la musique, je le sais, sera
C'était en 1967, Nicoletta, la musique, pour avoir le bonheur, les amis, l'amour. Je suis avec Edith Lecourt, qui est musicothérapeute, à l'occasion de la sortie aux éditions Erol de son ouvrage pour découvrir les vertus thérapeutiques de la musique, avec des questionnaires à la fin, mais surtout beaucoup de témoignages. Et je me suis rendu compte que dans votre pratique, Edith Lecourt, vous utilisez beaucoup la musique classique, et rarement rarement de la chanson populaire, c'est pour ça que je vous ai programmé Nicoletta.
D'accord. Oui. Alors, la chanson populaire, je vous rassure, est quand même très utilisée. En fait, toutes les musiques sont utilisables en musicothérapie. Bien sûr, on peut pas tester toutes les musiques. Mais à partir de là, par exemple, la question là du chant, ce qu'on vient d'entendre, cette chanson. Alors, déjà, le fait de chanter, c'est vrai que ça aide beaucoup, on l'utilise beaucoup en musicothérapie, puis les chanteurs l'utilisent pour eux-mêmes. Bon, mais le chant, la voix, à l'écoute, c'est très difficile à savoir comment l'autre va réagir parce que c'est quelque chose de très intime, la voix, et que on a des réactions très fortes à l'écoute de voix. C'est-à-dire, il y a des voix qu'on adore et il y a d'autres qu'on supporte pas du tout. Donc, pour pouvoir choisir pour le patient, il faut déjà bien le connaître pour trouver les voix qui vont pouvoir effectivement s'adresser à lui.
Et de voir, de tester quel effet a la musique ou les voix ou les chansons sur le patient. Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel scientifique aujourd'hui qu'on est très avancé sur le plan technologique? Edith Lecour, où en sont les recherches autour de la musicothérapie?
Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on avait beaucoup avancé au niveau de l'organisation, de la professionnalisation, puisqu'il y a un diplôme universitaire maintenant, un master de musicothérapie. Mais on a aussi beaucoup avancé, et ça, indépendamment un peu des musicothérapeutes, je dirais, c'est du côté de la neurologie. Et la neurologie a découvert ce qu'on avait observé depuis très longtemps dans la vie quotidienne avec les patients, c'est que la musique a des effets globaux sur le fonctionnement cérébral, pas seulement sur une partie du cerveau, mais en fait, elle est présente et donc elle a des effets sur toutes sortes de troubles psychiques, mais aussi sur des lésions cérébrales, par exemple. Pas qu'elle va guérir les lésions cérébrales, mais elle va permettre de faire une compensation avec d'autres parties du cerveau. Alors ça, c'est des découvertes beaucoup plus récentes, et du coup, la recherche en neurologie utilise beaucoup de musique pour éclairer le fonctionnement cérébral. Toutes les musiques. Donc après, c'est vraiment de trouver ce qui va faire sens pour le patient. Suivant ce qu'il a écouté dans son enfance, suivant ses goûts personnels, suivant l'état dans lequel il est à ce moment précis.
Est-ce que écouter de la mauvaise musique nuit à la santé?
Il n'y a pas de mauvaise musique.
Donc il n'y a pas de... Ah bah si, hein. Quand même, mais Edith Lecour, pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de mauvaise musique?
Parce qu'il y a un rapport à la musique. Vous avez votre conception de la musique, j'ai la mienne. Est-ce que certains bruits pour vous sont musicaux ou pas? À partir de quel moment ça fait musique pour vous? Alors ça, moi, je l'ai étudié très précisément dans les expériences que je fais d'improvisation en groupe, où tout est enregistré, donc ça me permet de reprendre et d'analyser, etc. Et puis de voir à quel moment les gens qui improvisent en groupe estiment qu'ils ont fait la musique. Donc à ce moment-là, je sais leur définition de la musique. Mais certains, c'est à partir simplement de bruits, de rythmes, etc. D'autres, il faut attendre que des sons subtils pour que voilà qu'ils perçoivent la musique. Mais ça, c'est très subjectif.
Alors qu'est-ce que vous faites comme
Non, moi je joue de la clarinette.
Ouais.
Et j'ai un groupe d'improvisation qui s'appelle le GLAM, le groupe de libre association musicale. Et donc c'est là un petit peu que je me ressource.
Est-ce que la musicothérapie peut s'appliquer aux sourds?
Oui. Oui, parce que elle a la chance, enfin, la musique a un spectre sonore très, très, très large. On estime toutes les musiques. Et puis aussi le volume sonore. Donc il y a les timbres et les volumes sonores qui vont permettre d'avoir accès pour certains sourds. Puisque les surdités sont de niveaux très différents. Donc ça a été utilisé beaucoup par un Danois, musicothérapeute danois qui s'est spécialisé là-dessus. Mais c'est Bang, il s'appelle, donc il avait un nom prédestiné.
Ouais.
Mais depuis, donc, des spécialistes qui travaillent avec les sourds utilisent aussi des instruments à forte résonance, par exemple, donc sur la rythmique, sur les résonances et certains timbres.
Qu'est-ce qui se passe quand la personne, le patient ou la patiente, n'a aucun intérêt particulier pour le domaine des arts et encore moins pour la musique?
Alors, pourquoi elle est venue nous voir? Ce sera intéressant de savoir pourquoi elle est venue voir un musicothérapeute. Alors, peut-être sur le conseil de quelqu'un. Bon, la première chose, ça sera de... Parce que bon, ce qu'on dit sur la musique, c'est une chose. Mais on n'a pas forcément conscience et la possibilité d'exprimer notre propre réaction à la musique. Donc, c'est justement en le mettant en situation musicale qu'on va pouvoir, nous, savoir effectivement comment il réagit et surtout lui faire prendre conscience du positif de son rapport à la musique dont il n'a pas encore conscience.
Edith Lecourt, y a-t-il des bruits que vous trouvez vous-même musicaux ?
Ah oui, beaucoup.
Par exemple ?
Beaucoup, beaucoup. Ben, dans le métro, quand la porte claque, quand je monte les escaliers, c'est un rythme, quand...
Et à contrario, est-ce qu'il y a des musiques que vous trouvez bruyantes ?
Alors oui, oui, là c'est le problème des décibels. Parce que forcément, là c'est moins le problème de la musique que des décibels. Parce que là, cette musique peut être intéressante, mais elle est montée à un niveau qui fait mal aux oreilles. Là, on a un rapport physique direct qui peut être créer des pathologies de l'audition, dont on a de plus en plus des cas. Donc c'est l'usage qu'on en fait.
Alors justement, puisqu'on parle de l'usage qu'on en fait, aller à un concert, c'est aller pour écouter de la musique ou aller pour être réuni autour de la musique ?
C'est une très bonne question. Parce que justement, moi, cette dimension groupale, c'est une de celles que j'ai développées, qui est très importante dans la musique. Parce que contrairement à la parole et ce dialogue qu'on a ensemble, si on le faisait en musique, on aurait l'impression de communiquer plus en le faisant simultanément. C'est une chance. Donc, la dimension du groupe est fondamentale dans la musique même, même si on peut faire un solo, bien sûr. Mais rencontrer, donc, alors là, il y a le groupe. Moi, j'ai travaillé essentiellement sur le rapport du groupe. Mais la foule, c'est autre chose. Dans un concert, s'il y a plusieurs centaines de personnes, c'est bien sûr un rapport de foule. Et là, c'est sûr qu'on y va pour des fortes émotions, parce qu'on va être porté par l'émotion de la foule. Et on y va pour rechercher cette intensité émotionnelle.
Alors, que peuvent vos collègues, que pouvez-vous faire, vous, en tant que musicothérapeute, Edith Lecourt, vis-à-vis des nouvelles maladies ou des pathologies des temps présents, c'est-à-dire la maladie de Parkinson, c'est-à-dire Alzheimer? Est-ce que la musique, est-ce que la musicothérapie peut faire quelque chose?
Alors oui, vous avez cité des cas où justement la musicothérapie peut intervenir. Ce sont pas des maladies nouvelles, hein. Malheureusement, on les traîne. Mais c'est vrai qu'on essaie de les traiter plus précisément là-dessus. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches actuelles sur le Parkinson et sur l'Alzheimer. Ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il y a eu beaucoup de recherches avec la musicothérapie. Donc effectivement, comme vous le demandiez tout à l'heure, avec des protocoles précis, etc.
Mais avec des résultats ?
Avec de forts résultats. Alors pour le Parkinson, c'est un peu plus précis, c'est-à-dire que c'est par rapport, c'est plutôt à partir du rythme qu'on va ramener effectivement une régularité, une harmonie dans le comportement, qu'on va soutenir le comportement avec le rythme. Pour l'Alzheimer, l'Alzheimer nous a fait découvrir l'importance de la mémoire musicale, qui est beaucoup plus longue que la mémoire verbale et qui permet donc, même quand on a perdu la mémoire verbale, de continuer à mémoriser des situations et à pouvoir retrouver même des situations avec grâce à la musique, en étant porté par l'enveloppe musicale qui nous rappelle un souvenir. On va retrouver le souvenir, on va pouvoir verbaliser le souvenir alors qu'on ne sait plus parler.
Et pour les stress contemporains, pour nos addictions nouvelles, que peut faire la musicothérapie ?
Contre le stress, c'est bien sûr cette musique qu'on a écoutée tout à l'heure, de la flûte, du souffle qui apaise, etc. On va utiliser tous ces éléments d'apaisement, de relaxation, etc. avec la musique. Ça, on a le rythme, on a la mélodie, on a beaucoup de choses. Contre les addictions, c'est une toute autre chose. Et des travaux anciens, déjà, et en Yougoslavie, on travaillait vraiment très précisément sur l'alcoolisme. Et donc là, je ne sais pas où ils en sont actuellement, mais ils avaient, il y a déjà dans les années 70, un programme très précis de thérapie par la musique pour, contre l'addiction. Justement, je ne sais pas où ils en sont. Donc, effectivement, on peut, le problème là, c'est de ne pas remplacer une addiction par une autre. Parce que celui qui est addict, il a besoin d'une compensation. Et donc, bon, vous direz l'addiction à la musique, c'est pas trop grave. Voilà. Donc
ça peut même être une bénédiction, on est d'accord, Edith Lecour.
Sous forme d'addiction, je dis pas. Mais en tout cas, bon, c'est plutôt ce remplacement par la musique, par quelque chose effectivement de plus intéressant.
Merci Edith Lecour d'avoir accepté notre invitation pour ce réveil culturel spécial fête de la musique. Un jour avant la fête de la musique, moi par exemple je ne suis pas musicothérapeute, mais quand j'ai le blues, quand on arrive à la fin d'une saison, eh ben je me prescris à moi-même du Caesarea Uivora et ça marche. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La musicothérapie, découvrir les vertus thérapeutiques de la musique, ça vient de sortir aux éditions Erol. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et nous, eh ben nous on se retrouve demain pour parler de la bande dessinée comme tous les vendredis.
Es convivência de senhores vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Es convivência de senhores vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Angola, Angola, e força, a minha os catamata, o mengoara para banhar caminho. Angola, Angola,